Résonance sur Radio B, Alain Goudard. Bonjour et bienvenue. Résonance part sur les routes de la région et d'ailleurs. Au cours de cette saison radiophonique, Résonance vous invite à parcourir les routes de la région Rhône-Alpes et d'ailleurs pour aller à la découverte d'initiatives, de projets culturels et artistiques afin de mieux en parler et de confier ainsi la parole aux porteurs de ces initiatives. Aujourd'hui, troisième et dernier volet de notre série d'émissions réalisées au musée Ariana de Genève, dans le cadre de notre enquête « Comment le musée peut-il, dans sa démarche, être un espace de dialogue, d'invention et de mobilisation ?» Chaque pays en Europe, à travers ses politiques publiques, a sa manière de travailler et de mettre en œuvre l'accès de tous aux arts et à la culture. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, Résonance a choisi de venir à la rencontre de nos amis suisses et d'installer ses micros au musée Ariana, musée de la céramique et du verre, en plein cœur de Genève. Lors de nos deux premières émissions, nous avons pu vous faire découvrir et partager comment le musée Ariana de Genève, sous l'impulsion d'Isabelle Naef-Galoupa, directrice de cet établissement, Hélène de Riquel, responsable de la médiation, cherche à faire en sorte que ce musée soit un lieu de rencontre, de découverte, d'inventivité ouvert à tous, en essayant notamment de proposer à des personnes en situation de handicap ou à des personnes incarcérées de vivre cette expérience de la rencontre avec les œuvres d'art, mais aussi avec leur propre créativité. Donc aujourd'hui, dans Résonance, nous vous proposons d'aller à la rencontre de l'atelier des femmes détenues à la prison de Chandelon, dans laquelle le musée Ariana propose différentes initiatives à ces femmes détenues. Pour ce troisième volet, cette troisième émission, j'ai le plaisir de recevoir à ce micro Hélène de Riquel, responsable de la médiation au musée Ariana. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Hélène, et ravie de vous retrouver.
Ravie aussi.
Et puis aujourd'hui, une invitée, Anouk Gresso, céramiste, et vous intervenez depuis de nombreuses années à la prison de Chandelon à Genève, et vous êtes partenaire également du musée Ariana depuis plusieurs années pour des projets culturels et inclusif. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Alors, merci. Nous allons essayer d'évoquer un peu cette question finalement de la culture et de la prison. Alors, évoquer les actions que développe et met en œuvre le musée Ariana en partenariat avec la prison de Chandelon nous amène en premier lieu à nous interroger aussi finalement sur quel accès les détenus des prisons en Suisse ont-ils à la culture, ou qu'est-ce que la culture en prison, ou encore quel rapport entre culture, art et insertion. C'est bien entendu une très vaste question à laquelle il est toujours difficile d'y apporter une réponse simple et précise. Nous ne pourrons peut-être pas complètement développer ici cette question, et ce n'est pas totalement du tout l'objectif de cette émission, mais en tout cas, on essaiera ensemble d'approcher des éléments de réflexion qui sous-tendent la présence de l'intervention culturelle en prison, de la culture en milieu carcéral. Comment définir ce que peut être ou pourrait être la culture en milieu carcéral? Alors, comme on a franchi la frontière, on a juste un espace de comparaison, si on peut dire, en tout cas simplement, il se passe ceci de l'autre côté de la frontière, en France voisine, l'idée de culture en prison est née avec l'idée d'accès à la culture pour tous, alors aussi bien portée par le ministère, par exemple, de la justice et de la culture, et elle s'inscrit notamment au cœur d'une politique de démocratisation culturelle et d'intérêt croissant pour les publics dits entre guillemets empêchés, publics en situation en tout cas d'exclusion. Alors peut-être on pourrait essayer, aussi bien avec vous, Anouk Gresso et puis Hélène de Riquel, se dire comment finalement les choses dans cette apparition, ou en tout cas cette place de la culture en Suisse, elle s'est un petit peu faite ici, de ce côté-ci de la frontière, à votre sens ?
Je réponds volontiers, si vous voulez.
Mais bien sûr, Anouk Gresso.
Alors, j'ai connu les gens du musée avant même de prendre le travail d'animatrice à la prison. Il faut savoir que je suis en prison à plein temps. Donc, les détenus viennent dans les ateliers qui sont au départ des ateliers d'occupation 5h30 par jour.
Oui, ce qui est très important.
C'est pas mal. Et puis, une vingtaine de détenus viennent. Donc, ça fait. On a vite une production importante.
Bien sûr.
Alors, les premières collaborations que j'ai eues avec le musée étaient donc avant que j'entre en prison.
Oui.
Parce que j'avais un atelier indépendant qui pouvait recevoir les enfants du musée pour certains stages. Quand j'ai pris la décision de quitter l'atelier et d'aller en prison, j'ai dit, j'espère qu'on continuera la collaboration, mais je n'avais aucune idée des possibilités.
Et du coup, qu'est-ce qui vous a motivé? Je veux dire, alors, il y avait ces ateliers avec les enfants, il s'est passé toutes ces choses. Ouais. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous vous dites, tiens, là, c'est peut-être un des endroits aujourd'hui que je dois m'aventurer, ou en tout cas, il y a quelque chose qui m'interpelle ou qui m'attire?
Bon, j'ai toujours adoré travailler collectivement.
Oui.
Je ne suis pas une artiste solitaire.
Oui.
Et puis ensuite, j'ai toujours été passionnée par les arts premiers, on dit comme ça maintenant, l'art primitif, les arts premiers, les musées, parce que c'est un art qui n'a ni le souci de la signature, il n'y a pas d'ego, ni le souci commercial, c'est pas fait pour vendre, mais pour répondre aux interrogations existentielles des gens qui les fabriquent. Ils sont souvent fabriqués aussi collectivement, et pas de souci de mode non plus. Et voilà. Donc, je trouve que c'est dans cette expression artistique, on est au cœur du problème, de la question.
Et vous avez raison. Là, vous touchez au fond, finalement, qu'est-ce que doit être l'art ? À quoi correspond la culture ? Et finalement, quand vous exposez pas la mode, pas le côté marchand, peut-être, on l'a évoqué aussi dans nos émissions précédentes où effectivement la société de divertissement, comme elle se présente aussi aujourd'hui, fait qu'aussi elle joue sur toutes les lignes, enfin en tout cas des frontières deviennent un peu illisibles, en tout cas, ou quelquefois aussi le milieu artistique franchit certaines frontières là aussi, qui fait que du coup on a plutôt tendance à savoir où se situent véritablement les choses. Et je trouve que vous rappelez fort bien les enjeux même de ce que doit être l'art et la culture.
Et puis le contact avec les musées avant que j'entre en prison, il m'a fait découvrir ce que c'est que le travail avec des thèmes. Parce qu'auparavant, on pense que la terre, c'est une fin en soi, c'est un matériau, on travaille la terre. Mais travailler la terre avec un thème, c'est comme si on monte d'une marche. Tout à coup, il y a un intérêt. Alors, quand je recevais les enfants du musée et qu'on travaillait sur des expositions existantes, j'ai découvert que c'était vraiment... ça ne fermait pas du tout la créativité, au contraire, ça libérait les enfants de leur propre ego et de la peur devant la créativité. Et ils s'engouffraient pour essayer de reproduire ou d'essayer de vivre ce monde qu'ils avaient sous les yeux. Et c'était évident de faire le lien avec la prison où les détenus sont vierges de formation artistique. Et une expérience comme ça pourrait être tentée.
Est-ce que c'est la contrainte, le fait d'avoir la contrainte, finalement, d'un thème qui est facteur d'ouverture ?
Bon, alors déjà, dans l'art, ça c'est très juste. Il y a toujours la contrainte et la contrainte produit la créativité. On sait ça, que d'être complètement libre, ça ne donne pas grand-chose.
Ça va être des questions qu'on va pouvoir approfondir. Alors, de votre côté, Hélène de Riquel, si on revenait, quelle perception aviez-vous? Il y a cette rencontre avec Anouk Gressot, mais peut-être que... Quel rapport peut-être déjà avait, ou peut-être y en avait-il pas forcément encore à l'époque, entre le musée et le milieu carcéral? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, outre le lien bien sûr de la personnalité que l'on perçoit d'Anouk Gressot, mais est-ce qu'il y avait peut-être aussi de se dire, comme on a évoqué, qu'il y a eu toute une relation avec les publics malvoyants, comme il y a eu aussi tout un travail en direction du public malentendant, que là aussi, il y avait un intérêt aussi du musée à pouvoir travailler, à proposer des choses en direction de ce public?
Ben, c'est évident. Bon, déjà, une personnalité étonnante, hein, comme vous avez pu le voir. D'autre part, en fait, j'ai découvert d'abord un premier projet qui avait été fait, mais absolument pas avec moi, oui, autour de masques égyptiens. Et les détenues, ben, elles étaient recouvertes, elle en parlera mieux que moi, mais de plâtre. Et il y avait juste deux pailles pour respirer. Elle m'avait raconté, en fait, cette histoire. Et puis, ben, voilà, des détenues étaient de nouveau dans un enfermement, le temps que ça prenne. Et j'avais trouvé absolument ça étonnant. Mmh. Et donc, grosse exposition à Genève, au musée d'art et d'histoire, sur de l'art précolombien. Mmh. Et je me suis dit, bah là, c'est vrai que ce milieu carcéral que je ne connaissais absolument pas, bah, c'est peut-être une occasion de voir leur perception de cet art, même si ces détenus proviennent d'horizons extrêmement divers.
Peut-être, oui, on peut en parler. Anouk, vous qui les connaissez bien, peut-être, sans voyeurisme d'aucune manière, mais simplement nous situer finalement, vous disiez tout à l'heure en aparté, en préparant cette émission, que finalement, cette présence des femmes dans cette prison, finalement, elle est un peu accidentelle parce qu'elles auraient dû être ailleurs. Elles ne devraient pas être au milieu de tous ces hommes et que du coup, il y a une population féminine assez faible, si je peux dire, ainsi, oui, dans cette prison de Chandolon.
Oui, tout à fait. Dans cette prison qui a plus de 800 détenus, il y a entre 30 et 40 femmes. C'est, oui, c'est la proportion, en principe, mondiale. Un peu partout, on peut constater ça dans le monde. Il y a 5 femmes ou 6 femmes pour 100 hommes incarcérés.
Et du coup, ces femmes sont là pour un temps donné. Elles sont là pour un temps court, en attente de...
C'est
juste pour préciser un tout petit peu, après, dans ce qu'il va leur être proposé, un peu la présence de ces femmes ici.
Alors, c'est une prison préventive, mais il y a des préventives qui durent.
C'est ça.
Et il y a des lenteurs, si c'est des crimes en réseau ou si c'est des choses très graves, les enquêtes sont longues, il y a les expertises psychiatriques qui fait que j'ai des femmes qui restent 4-5 ans parfois.
C'est ça.
Et puis, il n'y a aussi pas toujours de place pour les accueillir dans les pénitenciers une fois qu'elles sont jugées. Donc on se retrouve avec des gens déjà jugés qui restent. Donc on ne peut plus dire que c'est complètement une préventive.
Mais ce qui fait que du coup, il y a un travail un peu dans la durée avec ces femmes, puisque déjà vous les voyez... Alors, de manière importante. Ou comment ça se passe? Du coup, comment elle décide à un moment donné, vous les rencontrez, vous leur expliquez des choses, elle décide d'y participer. Comment ça se passe un petit peu?
Alors, les ateliers, c'est un peu comme une unité hospitalière, si vous voulez. Il y a plusieurs ateliers. Il y a un endroit où on lave et on repasse les habits des détenus. Il y a une espèce de cuisine, oui, où on fait les pauses. Il y a des ateliers de bricolage. Il y a un atelier où il y a un prof de français qui vient une fois par semaine, un peu... alphabétisés souvent et parfois enseigner aussi le français. Donc c'est une espèce de ruche où personne n'est contraint, c'est-à-dire que les femmes, ça leur offre la possibilité de sortir de cellule et de gagner un petit pécule horaire qui leur permet de cantiner, c'est les termes de la prison.
Oui, tout à fait, c'est tout à fait les termes.
Voilà. Et alors elles se joignent ou pas aux activités. Ça veut dire qu'elles viennent, elles regardent un peu, mais comme l'ambiance est sympathique, elles s'asseyent petit à petit, elles commencent, elles viennent un moment, et puis bon, souvent, au bout de 20 minutes, il y a des choses qui les préoccupent, donc elles ont besoin de marcher, de se promener, de revenir. Donc moi, je me suis habituée à cette ambiance, qui n'est pas du tout une ambiance d'école. C'est un peu comme un biotope où cohabitent toutes les espèces.
Toute espèce.
Et puis, mon rôle à moi, c'est d'inculquer suffisamment d'enthousiasme et de plaisir à faire les choses pour donner envie, en fait.
C'est ça.
Voilà. Et je viens de recevoir des lettres, puisqu'on fait un travail sur les Kachina des Indiens Hopi en ce moment. C'est des filles qui m'ont un peu écrit avant qu'elles partent leur motivation. Et là, elles disent clairement, une Nigériane qui me dit, moi, quand j'ai vu ce sable, elle dit même pas la terre, ce sable. J'ai dit, en tout cas, c'est pas moi qui irais me salir les mains là-dedans. Et elle tournait un peu autour, et puis petit à petit, elle voit une Dominicaine et une autre Africaine qui lui disent tout le plaisir qu'elles ont à fabriquer ces figurines. Et puis, un beau jour, qu'elle était un peu déprime, qu'elle en avait marre de rien faire, elle s'y est mise. Et elle a découvert que ça lui faisait énormément plaisir. Et maintenant, elle ne s'arrête plus depuis des mois d'en fabriquer.
De fabriquer.
Voilà.
Du coup, en prison, l'activité artistique ou culturelle, c'est un moyen aussi pour la personne incarcérée d'échanger, de rencontrer l'autre, de trouver petit à petit, alors qu'elle soit interne ou externe à la détention, mais aussi de passer le temps, vous le disiez.
Tout à fait.
S'occuper l'esprit, les mains.
Oui, aussi, et puis
de réfléchir, de comprendre.
Oui. Et puis c'est vraiment, il y a un lien entre l'esprit et les mains, et le fait de faire quelque chose, c'est comme
il y a quelque chose qui se met en route.
Il y a quelque chose qui se met en route. C'est comme quand on doit réfléchir et qu'on prend le train. La pensée suit son cours avec les mains aussi. Il y a quelque chose qui se passe qui est de l'ordre d'un calme, de quelque chose qui réconforte.
Et comment elles vivent, justement, où vous commenciez à nous évoquer certains témoignages, finalement. Hein, comment elles vivent cette présence artistique, du coup ? C'est vraiment quelque chose qui, au fur et à mesure, pour celles qui s'engagent dans les différentes propositions, c'est quelque chose qui vient au quotidien, quelque chose d'extrêmement important pour elles, d'avoir cette pratique artistique.
Mais oui, moi, je ne place pas l'art sur un piédestal. Pour moi, celle qui prépare le thé à côté, elle a autant d'importance. Et l'autre qui balaye et qui nettoie nos moules, elle a aussi son rôle.
Tout à fait.
Donc, au départ, elles ne sont pas inhibées. Elles n'ont pas l'impression de rentrer dans le temple. Pas du tout.
Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire, du coup, il y a aussi comment vous faites passer la chose.
Voilà.
C'est-à-dire que vous pourriez... J'exagère bien sûr le trait, dire voilà, je suis détentrice d'un savoir, je viens vous faire partager ce savoir que vous ne connaissez pas, et je vous mets peut-être aussi à distance de ce savoir. Ouais. Mais la démarche pour vous est tout autre.
Tout autre. Et ce qui est étonnant, c'est de voir à quel point elles sont surprises de faire d'aussi belles choses. Ça, à chaque fois, elles me disent, mais comment on est arrivé ?
Peut-être parce que vous n'êtes pas dans le jugement non plus, peut-être esthétique ou artistique de ce qui s'y passe.
Parce qu'on a quand même un but, on s'approche de quelque chose, donc tant qu'on ne l'a pas atteint, eh bien, on remet l'ouvrage sur le métier. Ça, c'est notre chance, c'est qu'on n'a pas d'impératif de production, de temps, de tout ça. Donc, on n'a pas de jury, on n'a rien du tout. On peut vraiment... Donc, ça, le temps, ça compte. Et le monde qu'il y a et le temps qu'on y passe fait qu'on dirait qu'il n'y a presque plus qu'en prison qu'on peut faire des travaux comme ça. Mais... Parce que l'artisan indépendant, il ne pourrait jamais consacrer autant de temps et faire survivre l'atelier. Donc,
Mais du coup, vu l'état d'esprit que vous nous dépeignez, vu que le contexte dont vous nous faites part, on peut se poser aussi comment peut-être alors l'administration pénitentiaire regarde aussi ce que vous êtes en train de nous expliquer.
Alors l'administration pénitentiaire, elle voit qu'elle baisse un peu la dose de sédatifs, qu'il y a un peu moins de suicides, qu'il n'y a pas trop de problèmes dans l'unité femmes. Il y en a toujours de temps en temps, mais pas trop. Donc ils se disent un endroit où il n'y a pas trop de problèmes, donc ça roule, on ne s'en occupe pas trop. Il y en a assez ailleurs.
Vous sentez donc du coup, elle va pas vous mettre, enfin, on va dire, est-ce qu'elle met des... Là, elle fait un constat, du coup, ça régule un aspect médicamenteux ou de comportement. Est-ce que vous pensez que ça se résume... Enfin, pour le moment, c'est de cette manière-là. C'est-à-dire, elle se dit, bon, ça nous élimine un tout petit peu ou ça atténue une problématique. On n'y touche pas plus, on n'y regarde pas plus.
Je pense que c'est ça. Je pense que quand on fait une exposition, quand il y a des retours d'articles dans les journaux, ils sont contents. Ils sont assez contents, mais disons que c'est pas une priorité pour le domaine pénitentiaire.
Hey!
Vous êtes avec Résonance sur Radio B, émission spéciale au musée Ariana à Genève. Et nous venons d'entendre Tres Sonetos de Amor, une œuvre de 2007 pour soprano et piano, sur des poèmes de Pablo Neruda, composés par Nicolas Bollens, autre compositeur suisse que nous avons le plaisir d'accueillir au sein de cette série d'émissions. Et ici, cette œuvre était interprétée par Brigitte Hall, soprano, et au piano, le compositeur lui-même, Nicolas Bollens. Donc, dans le cadre de cette série d'émissions, nous essayons aussi, chers auditeurs, de vous faire découvrir toute la richesse aussi et toutes les facettes de la création musicale contemporaine de nos voisins et amis suisses. Alors, peut-être... Hélène de Riquel, on a commencé de pénétrer dans cette atmosphère, dans les fondamentaux aussi et postulats de Anouk Gressot qui la conduisent à intervenir aussi en prison. Revenons peut-être aussi à ce lien qui s'est construit entre vous deux et notamment avec le musée qui lui aussi a ses collections, ses projets. Et du coup, à certains moments donnés, bien sûr, il y a connexion entre... les temps d'exposition qui s'imaginent ici, et puis à un moment donné les chemins possibles, les passerelles possibles que Anouk Gressot va pouvoir mettre en œuvre et que les détenus vont pouvoir elles aussi s'emparer. Alors il y avait peut-être, je crois, en 2011, hein, on pourrait commencer par ce projet-là. Et en plus, il y avait des jeux de mots intéressants. Une action, pas de bol d'être en prison. Là, il y a déjà aussi de la provocation. Et en même temps, on va travailler sur la céramique et on va travailler sur des bols.
Oui, en fait, c'est une exposition qui a eu lieu en 2011, qui était intitulée « 1001 bols ». Donc, 100 artistes internationaux fabriquaient chacun 10 bols, selon les mêmes techniques. Le énième bol était en fait le petit bol indien qu'on appelle le coulard, destiné à la boisson qui est le thé, le chai, et est donc un petit bol à usage unique. Quand vous l'utilisez, vous le jetez après parce qu'il est en terre cuite. Donc, dans le cadre de cette exposition qui avait lieu au sous-sol du musée Ariana, une salle était vide et la médiation culturelle en a bien profité vu qu'elle a demandé à plusieurs partenaires de travailler sur cette thématique du bol. Et un de nos partenaires était bien sûr la prison de Chandelon avec Anouk et je lui ai proposé ce projet. Quelques tensions régnaient à l'époque et elle est partie en me disant « Oui, mais on n'aura pas beaucoup l'occasion de travailler, mais je vais réfléchir sur le thème du bol, parce qu'évidemment, il y a des tas d'expressions, une coupe en bol, etc. etc. » D'où est né « Pas de bol d'être en prison ». Et puis, je pense que les prisonnières se sont prises au jeu du fait qu'en Inde, en fait, ce petit bol en terre cuite perd de son usage au profit du bol en plastique.
Une mutation.
Ce qui est moins joli quand on boit dans les gares. On avait avant des tessons de terre cuite. Aujourd'hui, on a le plastique. Et elles ont fait une association véritablement entre la terre cuite et le plastique. Et je pense que Anouk va pouvoir parler de la suite du projet.
Anouk Gressot, alors comment vous vous êtes emparée de cette proposition ?
C'est toute la notion du jetable et du récupérable.
Et du récupérable, finalement.
Et l'un au profit de l'autre. Et est-ce qu'il y aurait un moyen de les associer ? Et je suis pas partie sur rien du tout. C'est pas une idée personnelle de génie qui était la récupération des bouchons de bouteilles de coca et autres. C'est une fois j'ai traversé une grande surface où il y avait des artistes d'Afrique du Sud qui avaient composé des espèces de rideaux avec des morceaux de plastique traversés par des fils qui suspendus. C'était très coloré, beau. Et voilà, cette idée, elle est ressortie. J'avais pris une ou deux photos avec mon portable avec l'idée du musée Ariana. Et fabriquer des bols en prison, c'est pas trop difficile parce que je suis équipée avec des moules en plâtre. Donc, tout le monde peut appliquer la terre dans les moules on a vite une belle forme. Après, alors, il y a toute l'idée, comment on va agencer les bouchons de bouteilles, etc. Mais alors, ça a vite décollé. On a après rajouté des plumes, rajouté des bambous, rajouté toutes sortes de choses, des pièces de jeu d'échecs sur certains. Et puis, ça a été un délire créateur.
C'est chacune qui a amené quelque chose, qui se disait, ben voilà, j'ai ça à chercher, oui. Vous aviez déjà une proposition de matière.
Oui, puis dans les ateliers, on a quand même pas mal de matériel, vu le nombre d'années et tout. Alors, tout à coup, on se dit, si on pouvait encore prendre ça et ça et ça. Et on ne pouvait plus les arrêter. Donc, on a été surpris de la direction que ça a pris, parce qu'au début, effectivement, comme a dit Hélène, la première idée, c'était pas de bol d'être en prison. Donc, on a fait des bols fermés avec les lettres qui composaient ce panneau. Et puis après, on avait tous ces bols assez somptueux. Puis c'est vrai que dans la pièce noire du sous-sol du musée Ariana, c'était un festival de couleurs.
J'imagine.
Quelque chose de très intense, avec beaucoup de... Il y avait même un bol avec des lettres, ou toutes les lettres du mot « cœur », qui sont les lettres que le mot « écrou », avec encore des écrous dessus. Il y a eu des pièces très fortes. Alors voilà, c'est un beau souvenir. Et puis, ça avait eu un sacré succès médiatique.
Alors, justement, peut-être évoquons cet aspect-là, c'est-à-dire pouvoir diffuser à l'extérieur l'œuvre produite. C'est une valorisation forte. En tout cas, une manière aussi de dire, effectivement, je suis en détenu. Mais est-ce que ce n'est pas là encore une manière de pouvoir participer au commun, de se retrouver quand même acteur au sein de la société ?
Tout à fait. C'est un lien social et ce ne sont plus seulement l'auteur d'un délit. Et là, il s'est passé encore quelque chose d'extraordinaire qui me revient à l'esprit. C'est le lien avec les gardiens du musée. C'est les gardiens du musée.
On n'en a pas parlé. Est-ce que, effectivement, quand vous êtes dans l'atelier, quand vous êtes en mouvement, en branle, si je peux dire, avec toutes ces femmes, il y a aussi des surveillants qui participent ou vous êtes seul ou c'est occasionnellement que certains ou certaines, les surveillantes se mettent à participer au projet ?
Une des surveillantes de prison est une ancienne couturière. Elle a participé à fond avec des mousselines, des plumes, des trucs. L'autre surveillante aussi avec des jouets d'enfants. Elle avait des filles plus jeunes.
Oui.
Donc, en fait, tout le monde s'y met. Moi, c'est vraiment, j'aime bien que l'art ne soit pas réservé.
Bien sûr.
Et s'ils sont là et qu'ils ont envie et qu'ils peuvent faire des suggestions et donner des idées.
Et là, justement, est-ce que vous sentez, vous, dans ce moment de pratique collective, où finalement... bien sûr que la surveillante reste surveillante dans sa posture de surveillante, mais le fait qu'elle soit engagée, elle, avec les autres, les autres détenus, dans une réalisation artistique où s'échangent des choses, est-ce que ça fait changer quelque chose dans ce relationnel-là ?
Ah, bien sûr, oui, c'est important, parce que les gardiens de prison ont parfois l'impression d'être plus mal lotis que certains détenus.
Tout à fait.
Et parce qu'ils sont un peu à leur service, ils les conduisent ici, ils les conduisent là, donc il ne faut pas marquer trop la rupture non plus. Bon, ce sont les gardiens des ateliers, c'est un statut spécial.
Ah, c'est un statut spécial.
Ouais, c'est un statut spécial.
Voilà, en France, c'est vrai que c'est les mêmes personnes, par exemple.
C'est les mêmes personnes, mais elles décident de travailler aux ateliers, elles y sont tous les jours, alors que si, autrement, elles sont dans un fonctionnement où elles changent de lieu, c'est ce qu'on appelle des brigades. Là, elles sortent de la brigade et elles deviennent gardiennes des ateliers.
D'accord, donc là, c'est une fonction spécifique. Alors, peut-être, c'est un choix de leur part ?
Oui, c'est un choix de leur part, bien sûr. Mais ce que je voulais dire, qui s'était établi, le lien, c'était aussi avec les gardiens du musée. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire.
Ah, oui.
Ils étaient très touchés, les gardiens du musée, parce qu'ils ont vu des familles de détenus venir s'asseoir, pleurer, discuter. Il y avait un livre d'or avec des remarques, etc. Et ils ont, je sais plus qui sont les premiers, je crois qu'ils ont envoyé une carte de vœux. Ils ont écrit une carte aux détenus en disant, etc. Et les détenus ont répondu aux gardiens en disant que ils se sentaient très touchés d'avoir des gardiens qui protégeaient leurs pièces.
Ah oui. Donc là, on avait des mutations, là aussi des rôles.
Voilà.
Et donc, du coup, une prise en compte autre, finalement, de quelqu'un qui accorde non pas l'oblige à rester, voilà, parce qu'elle est enfermée dans un lieu, mais là aussi prend soin finalement.
Je pense que ça les a touchés d'apprendre que des gardiens étaient là, payés la journée
soin
pour protéger
leurs fait.
Pièces, pour que personne ne les abîme, et que c'était tout à coup un renversement de situation.
Et là, l'institution, on va dire, générale carcérale, quand il a fallu... Vous évoquiez qu'il y avait eu un élan médiatique important, cette relation avec le musée, le fait que des gardiennes participent aux faits artistiques. Est-ce que du coup, elles échangeaient avec eux? Comment l'administration réagissait avec ça? Outre l'aspect, comme on a dit là tout à l'heure, qu'elle se disait, ça atténue des problématiques. Est-ce que du coup, le fait qu'un élan médiatique soit aussi important, qu'on en parle, qu'on en parle peut-être dans la presse, je ne sais pas si c'était au niveau télévision, est-ce que ça fait prendre conscience, tiens, de l'importance un peu plus de ce qui se passe artistiquement avec ces femmes et de retentissement que ça peut avoir?
Si, je crois qu'ils sont contents. Ils sont contents de voir qu'on parle positivement de la prison alors que c'est souvent, on en parle souvent négativement.
Parce que là, finalement, on parle enfermement, mais au travers de ce que vous leur proposez, espace de liberté.
Voilà, oui.
Quelquefois, il y a des contradictions. Enfin, en tout cas, quelquefois, le gardien peut se dire aussi voilà, qu'est-ce qu'on fait là?
Oui. Tout à fait. Oui. C'est la grande partie des gardiens sont pas très intéressés par ce qu'on fait.
Ils le voient de manière négative.
Un peu. Ils trouvent que c'est beaucoup
de choses accordées peut-être à la personne détenue par rapport au contexte qui a peut-être conduit cette personne à être séjournée à la prison Chandelon par exemple.
Tout à fait. Bon, on a plus une population carcérale. Politisés, avec des idées et tout. On a vraiment une population de gens qui sont souvent pas agréables à fréquenter, si on peut dire.
Et peut-être si... Alors ça, c'était la première expérience, Hélène de Riquel. Pas de bol d'être en prison. Et puis ça s'est continué. C'est-à-dire que ce premier... en tout cas, cette exposition donne des élans, donne des envies. Ensuite, il y a aussi Terre d'Islam, qui a été aussi encore un autre projet fort, aussi.
Exactement.
Avec ses détenus.
Alors, Mille et un bol n'était pas le premier projet avec la prison. C'était bien le troisième, en tout cas ensemble. Terre d'Islam, donc je remets dans son contexte,
bien sûr, oui.
Une exposition de céramique islamique qui appartiennent au musée Ariana. Et je me suis dit, est-ce qu'Anouk serait intéressée à travailler sur cette thématique? Je sais que, dans les années antérieures, il y avait beaucoup de personnes qui étaient sud-américaines. C'est la diversité de Genève aussi avec
On a aussi des détenues musulmanes.
Et t'as aussi des détenues musulmanes. Donc ça a été en fait la réalisation de carreaux islamiques qui font quand même partie de cette céramique et de cette culture. Et Anouk est partie à Paris déjà voir la section islam au Louvre qui avait été réouverte. Elle est également allée à l'Institut du monde arabe.
J'imagine.
Et ce que j'ai trouvé absolument génial, c'est qu'elle est partie avec deux détenus. Deux surveillants
qui vous ont accompagné.
Qui l'ont accompagné.
Ça aurait été formidable.
Ouais, formidable. Non, ça n'a pas été le cas, malheureusement. Et elles sont parties sur l'idée du moucharabier, donc ce panneau de bois derrière lesquels les femmes se placent pour voir, mais sans être vues.
Sans être vues, oui.
Et donc, vu la production, on a pu orner tout un panneau ici au musée de ces carreaux. Et puis, ça a pris encore de l'ampleur. Et dans ces civilisations islamiques, la céramique fait vraiment partie de l'architecture. Mmh. On a décidé d'orner le pourtour de l'entrée de l'exposition. Au départ, on voyait grand, intérieur, etc. Après, il ne faut pas oublier que la céramique, elle a un retrait. Et donc, il fallait déjà calculer pile poil comment ça allait se placer. Mais elle a fait ça comme un chef, comme d'hab. Et donc, ça a été deux belles réalisations de la prison.
Alors, ça aussi, on ne sait jamais comment ça va démarrer, les travaux. C'était assez individuel. Il y en a qui avaient envie de faire des caractères arabes. Il y en a d'autres qui ont fait des animaux en relief, des chameaux, oui, des éléphants, etc. Il y en a, on est parti aussi sur l'idée du moucharabier, donc du panneau ajouré.
Oui.
Puis à un moment donné, je me suis retrouvée avec beaucoup de matériel très disparate et j'avais de la peine à imaginer un accrochage. Alors, c'est là que j'ai appelé les personnes du musée, dont Hélène. J'ai dit, écoutez, ouais, venez, puis dites-moi
ce que vous
qu'est-ce
pensez
que vous sentez en voyant ça, ce qu'on peut faire. Parce que j'ai un peu peur, dans le cadre d'une exposition, est-ce qu'on va les mettre par famille et tout. Et là, elles ont dit tout de suite, en voyant, mais on va faire un très grand mur. Et ça, c'était une idée de génie, parce que ce qui était disparate, tout à coup, on a réussi à faire une composition qui est devenue un tout. Et ça avait beaucoup d'allure.
C'est comme du coup l'hétérogène qui peut paraître à un moment donné source de complexité.
Alors là aussi,
devient la richesse finalement.
Tout à fait, exactement. Alors ça aussi c'est une leçon pour
bien
nous
sûr
tous. Et en plus de ça, en faisant ça, évidemment tout le monde discute. Hein.
C'est, bien sûr.
Y a beaucoup
ça amène le débat, ça amène l'échange.
Ouais. Les détenues entre elles, c'était intéressant. Ouais.
C'est vrai que là on touche à quelque chose d'important hein, quand vous évoquiez cette hétérogénéité. Quelque part, le milieu carcéral a envie de remettre dans une homogénéisation pour dire après, on va pouvoir retrouver un fonctionnement normal. Ouais. Et là, la pratique artistique, au contraire, quelque part, va mettre en exergue la singularité, va mettre en exergue la présence particulière. Et là, forcément, l'expression unique en même temps de chacun. Mais cette coexistence va montrer que quand même, un commun peut exister et peut être très riche à partir de cette coexistence.
Exactement. Et puis le travail, on prend la route, on démarre un travail, mais on ne sait pas trop où on va. Et les choses naissent en cours de route.
Bien
tout
sûr
à coup, quelqu'un voit dans un catalogue une porte de mosquée très belle, ornementée, qui est ouverte. Et là, ça les touche, les portes ouvertes ou entrouvertes ou fermées. Donc on a fait aussi une série de portes qui ont été incluses dans le mur. Donc, au bout du compte, on avait beaucoup de thèmes évoqués, mais de les rassembler, ça avait vraiment du sens.
Comment ça a été reçu, cette présence artistique de cette grande fresque, finalement, Hélène, ici au musée?
Alors, évidemment, on n'avait pas de médiateur à côté du grand panneau. Donc, avec Anouk, on avait fait une feuille de salle hein, qui expliquait quand même le projet, comment ça avait démarré, etc. Donc, les gens pouvaient être informés. Mais je vous promets que tout le monde se faisait photographier à côté de ce panneau. Ça, c'était étonnant. Et ils touchaient, parce qu'évidemment, ils pouvaient toucher.
Ouais.
Ils étaient, dès qu'il y avait un médiateur qui passait,
Ils interpellaient,
etc. Et les gardiens, les surveillants allaient aussi expliquer le projet. Donc ça a eu une très belle répercussion.
Ouais.
On a été d'ailleurs très tristes de devoir le démonter.
Ouais.
Et je pense... Ah, pardon. Non, je pensais aussi qu'avec tes carreaux, tes moucharabiers, je pense que tu m'avais dit qu'il y avait une jeune femme qui avait eu l'idée, en fait, outre ces panneaux ajourés, de placer un miroir.
Ah oui, ça c'est important. Ouais. C'est vrai, c'est une des détenues qui a proposé qu'on mette des miroirs.
Qui mette des miroirs.
Derrière tous les moucharabiers, on a mis des miroirs.
Ah oui, ça
c'est assez fort.
Ah, c'est fort ça aussi.
Oui, oui, oui.
Vous écoutez Résonance sur Radio B, émission spéciale au musée Ariana à Genève. Alors peut-être, je suis toujours en compagnie d'Hélène de Riquel, responsable de la médiation ici au musée, et puis Anouk Cressot, céramiste, et qui s'aventure depuis de nombreuses années dans le cadre de cet atelier au sein de pratiques artistiques, au sein de la prison de Chandelon à Genève ici. Peut-être on pourrait, maintenant qu'on a un peu pénétré avec vous, on a même un peu l'impression de les connaître déjà beaucoup plus, c'est toutes ces personnes qui participent, en tout cas qui trouvent là un espace d'expression fort. Peut-être aussi qui vient aider aussi ça, parce qu'il y a aussi, vous nous avez expliqué à nos Gressos que finalement vous êtes là tous les jours, qu'il y a un atelier. Finalement, qui participe au financement de cet atelier? Et puis peut-être après on verra avec Hélène de Riquel comment ça croise peut-être aussi avec le musée, notamment au travers des projets que nous avons exposés tout à l'heure. Alors à nous Gressos, comment ça se passe finalement au niveau du soutien financier au sein de la prison de Chandelon par rapport à cet atelier?
Alors, ça se passe vraiment très simplement. Nous, on a un budget annuel d'animation des ateliers. On ne le dépasse pas. Tant qu'on reste dans le budget alloué, personne ne va nous faire de remarques.
Et là, c'est le département de la justice qui...
Ça a été décidé par le département de justice et police qui donne une somme pour animer les ateliers.
D'accord.
Et le musée, lui, prend en charge tout ce qui est frais d'exposition, de diffusion, et l'accrochage, etc. Donc c'est extraordinaire parce que nous, c'est ça qu'on pourrait difficilement prendre
bien
en
sûr.
Charge. Nous, on prend en charge la fabrication, mais quand les choses sont fabriquées, on les remet au musée qui, eux, assument toute l'autre partie. Donc nous, on est heureux d'avoir cette possibilité d'exposer au musée, eux, de montrer qu'ils sont en contact avec des publics diversifiés, donc c'est du gagnant-gagnant. Voilà.
Et le département, je dirais, de la culture, par contre, intervient-il, ou par exemple la ville de Genève, intervient-elle dans ce cadre figure, par exemple?
Eh bien, quand ils inaugurent les expositions au musée, souvent, on a notre ministre de la Culture qui vient, qui souligne le travail qui a été fait. Donc,
mais n'intervient peut-être pas directement financièrement?
Non. Le département de la culture n'intervient pas.
C'est le département de la justice qui, lui, intervient,
voilà.
Mais pas au niveau de la culture.
Voilà, exactement. Ouais.
Et donc, du coup, Hélène de Riquel, de votre côté, Anouk Cressot, à juste titre, faisait état des apports aussi et de l'investissement du musée. Comment se dépeigne aussi sur ce cadre à la fois d'accompagnement financier ou de mise à disposition? Ça peut prendre des formes différentes?
Oui, tout à fait. En fait, au niveau de la médiation culturelle, j'ai des budgets qui sont pas très gras, mais on fait avec. Hein. Donc, par rapport aussi bien aux collections qu'aux expositions temporaires. Et puis là, dans le cadre de l'islam, c'est vrai qu'on donne un espace durant toute la durée d'exposition. Et puis, on avait des feuilles de salle, on a fait intervenir un scénographe, des personnes qui vont placer d'abord les carreaux sur des panneaux de bois pour que ce soit bien solide et bien durable. Et ainsi de suite, ça a été, à mon avis, une bonne journée de travail pour placer. Au rez-de-chaussée, c'était une bonne journée, plus en bas, ouais, peut-être 2 jours de travail, on va dire. Mmh. Et voilà, ça c'est la mise en lumière de ce qui se fait derrière les murs et qui peuvent être visibles ici.
Et ça veut dire que le musée, lui, peut être aidé par ses partenaires institutionnels pour ce type d'action?
Alors là, on a fait intervenir personne, c'est rentré dans les budgets de l'Expo Terre d'Islam, parce que c'était un projet qu'on était bien au courant qu'on voulait faire, mais bien sûr que le département peut aider sur certaines actions spécifiques, notamment avec des malvoyants et des choses comme ça, ils peuvent intervenir.
Voilà, oui, ils accompagnent à ce niveau-là, de manière assez précise, le musée dans ses missions.
Exactement. Ouais.
Donc là, énormément d'enjeux. Alors, il y a des projets futurs, j'imagine, si on peut en parler quelques mots peut-être entre le musée et ce que vous faites au niveau de l'atelier. Quelles sont les perspectives actuellement?
Alors oui, on a un projet, on a souvent un projet futur, en tout cas des collaborations, mais j'ai aussi travaillé avec Jeanne Pont.
Oui, qui est donc à la direction de la culture, de la ville.
Et il y a un travail que je pourrais évoquer qui était quand même assez... qui mérite d'être décrit. C'était dans l'année Rousseau. on nous propose de faire quelque chose sur l'année Rousseau. Alors ça, c'était, vous parlez d'argent, c'était justement parce que Pro Helvetia a proposé une petite somme d'argent aux institutions qui participeraient à ce projet. C'est de l'argent qu'ils ont débloqué pour l'année Rousseau.
Pour l'année Rousseau spécifiquement. C'était 2012, me semble-t-il.
2012, voilà. Alors, cette personne, Jeanne Pont, que connaît bien aussi Hélène de Riquel, m'a proposé pour un autre petit musée qui est un peu le musée de l'histoire de Genève, qui se trouve près de l'hôtel de ville, dans la vieille ville, si on pouvait faire un projet autour de Rousseau. Bon, j'ai une population pluriethnique qui
peut-être Rousseau est un brave inconnu.
Absolument, complètement inconnu. Donc, première idée qui me vient, c'est les rêveries d'un promeneur solitaire.
Bien sûr, oui.
Je relis un passage où il a été exilé sur l'île Saint-Pierre, au milieu du lac de Bienne, où il n'avait plus le droit d'en sortir.
D'en sortir,
était puni,
effectivement, oui.
Et il dit qu'il n'a jamais été aussi heureux qu'enfermé sur cette île. Et je me disais, il y a
là,
peut-être
il y avait
un parallèle
qui vous semblait fort approprié.
Et puis, j'ai essayé de sonder un peu. Ben, ça disait rien à personne. Et je ramais un peu avec ce projet en me disant qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire. Et là, un ami me dit, moi, je vais faire des courts-métrages avec l'École des Beaux-Arts autour de Rousseau. Et j'ai fait un abécédaire des phrases qui me semblaient intéressantes. Et une de ces phrases, qui a donc été écrite il y a plus de 500 ans, c'était « L'argent est la véritable semence de l'argent ». Et le premier écu est infiniment plus difficile à gagner que le second million. C'était une période où à la prison arrivait à l'appel des femmes d'Espagne, en pleine période où il y avait les manifestations des indignés, indignados, dans les rues de Barcelone et de Madrid. Évidemment, toute cette population latino et africaine qui vivait de petits boulots en Espagne, ils ont été les premiers touchés par la crise.
Bien sûr.
Et ils sont tous mis à trafiquer, à ramener le... Donc, ils débarquaient ici. Alors là, on avait vraiment une période où c'est vraiment la misère. D'ailleurs, les prisons, on constate qu'elles enferment souvent la pauvreté.
Bien sûr, c'est terrible aussi, quelquefois.
Et
très précaire, justement.
Voilà. Alors là, on a débattu des indignés, Rousseau.
Oui, ça venait du débat,
Rousseau,
finalement.
Qui est la démocratie, etc. Et là, c'est venu, il y a une fille qui a dit, nous, on se fait attraper, on est pauvres, on est en prison, mais les riches, eux, ils ont des parachutes dorés. Et là, ça a fait tilt, j'ai dit, les parachutes dorés. Les parachutes dorés, vous êtes combien? 30? Bon, on va faire 30 parachutes dorés. Et alors ça, c'est le premier boulot que j'ai fait qui n'est pas autour de la terre. C'est un boulot de plasticien. Mais j'avais des roumaines qui cousaient très bien la machine. J'avais des gitanes qui aimaient bien souder le fer et tout pour faire les armatures. On a fait une trentaine de parachutes dorés magnifiques auxquels on a accroché les mots de la phrase de Jean-Jacques Rousseau, plus une gerbe de blé pour représenter le blé, plus nos billets de 100 francs avec les statues de Giacometti agrandis en photocopie qui s'étaient suspendus comme ça. Et un parachute, on l'a fait aux couleurs du pigeon, gris clair, gris foncé, mauve et turquoise satiné. Et là, j'ai été chercher au musée d'histoire naturelle, j'ai emprunté des pigeons empaillés. Et là, on a fait un pigeon accroché à ce parachute-là qui tombait sur la case prison. Mmh. Et c'était fort parce que c'était un accrochage dans le hall de la maison Tavel, qui a un plafond très très haut. Alors on a eu le service du patrimoine des sites pour savoir si on osait visser dans ces poutres qui dataient de très longtemps. Et en fait, symboliquement, c'était fort parce que c'est un jet de pierre de l'hôtel de ville où les œuvres de Rousseau avaient été brûlées en auto-dafé. Quelques centaines d'années. Là, tout à coup, ça a percuté.
Ça a percuté
avec les détenus. Je trouvais que c'était un travail fort. Il n'a pas été beaucoup relevé dans l'année Rousseau. C'est alors que je trouve qu'il avait une dimension de message fort.
Oui, tout ce que vous en dites, on sent que finalement, notamment en faisant rapport à l'exil de Rousseau, l'enfermement, création, force d'espace de liberté, il y a un côté subversif aussi de la chose.
Voilà, j'aimais bien ce petit côté. Et puis mon fils qui travaille l'image par ordinateur à Lausanne, il avait pu amener un appareil qu'on avait fixé au sol qui faisait des nuages qui montent, des images de nuages qui montent. Donc le pigeon, on avait vraiment l'impression que le parachute tombait sur la case prison pendant que les autres se balançaient, les parachutes dorés. Alors ça, c'était un peu défoulant quand même, parce qu'on a fait une belle photo dans les ateliers de la prison avant d'emmener les parachutes, où toutes les filles portaient le parachute doré. Elles auraient bien aimé. c'est des petits moments, mais un peu jubilatoires.
En tout cas, c'est très riche, en tout cas tout ça, et on sent que là aussi, Hélène de Riquel, il y a une dynamique forte depuis toutes ces années impliquée par le musée dans toutes les directions. On va arriver dans quelques minutes au terme de notre émission, mais on voit qu'effectivement, ici, il se passe des choses importantes dans ce musée et qu'il y a une dynamique très nette et forte en direction de tous ces publics et une volonté très forte aussi également de rendre accessible en tout cas le patrimoine qui est ici, mais en tout cas, et on l'entend bien ici, la créativité, l'inventivité, la liberté d'expression aussi.
Oui,
tout à fait. Alors je pense que depuis que le musée Ariana est devenu indépendant par rapport au musée d'art et d'histoire, notamment dans la médiation culturelle, j'ai été fixée ici au musée, ce qui veut dire que j'y passe mon temps de travail, et ça veut dire qu'on peut mener des projets à plus long terme, ce qui est quand même extrêmement enrichissant.
Ce qui est extrêmement important, parce que ça permet de pérenniser.
De pérenniser des actions.
Et on sent bien que ce travail-là, c'est une complicité de longue haleine qui permet aussi, effectivement, toutes ces réalisations.
Exactement. Et puis bon, moi, j'ai encore quelques bonnes idées pour Anouk avant qu'elle ne prenne sa retraite.
Donc
elle a intérêt à me laisser encore un peu de temps.
Mais c'est vrai que moi, je mesure tous les jours la chance qu'on a aussi, parce que imaginez, moi, ce travail en vase clos, où j'ai aucun contact avec l'extérieur, si ça restait dans les murs. Alors, on a aussi une partie dont j'ai pas parlé dans les ateliers de la prison, de production de plats, de bols, de choses qu'on vend à l'interne, au personnel interne, et une fois tous les deux ans sur un grand marché. Alors, ça, c'est important aussi, parce que les détenus ont aussi envie de fabriquer des objets qu'elles peuvent offrir à leur famille. Ça, c'est un lien aussi important, personnel. Elles ont fait quelque chose et elles l'offrent à la visite au parloir.
C'est un geste fort aussi.
C'est un geste fort aussi. Donc, il y a aussi cet aspect. Mais c'est vrai qu'on est, validé par le fait qu'on a ces expos au musée. Parce qu'autrement, ça fait longtemps. J'ai l'impression qu'ils auraient supprimé tous les ateliers, mis des lits, vu qu'il y a la surpopulation. Et puis dit, on est une préventive, on n'a pas besoin de tout ça.
Voilà, donc l'importance
de l'activité
culturelle entre des acteurs culturels aussi. Alors nous arrivons au terme maintenant de cette émission. On aura encore beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses encore à évoquer, mais je crois que quand même on a commencé d'apporter quelques pistes, en tout cas pour alimenter les réflexions de tous ceux et toutes celles qui défendent aussi ces espaces de création, d'expression, et ô combien important dans notre société d'aujourd'hui. Je voulais à nouveau remercier vivement Isabelle Naef Galouba, directrice du musée d'Ariana, vous-même Hélène de Riquel, pour bien sûr avoir facilité l'organisation de ces trois émissions. Rappeler aussi des remerciements à Jeanne Pont, attachée culturelle à la ville de Genève, pour effectivement avoir aussi contribué à tout ça. Et puis bien sûr vous, aujourd'hui, Anouk Gressot, merci beaucoup.
Ah, mais c'est gentil d'avoir permis une courte évasion.
On va essayer qu'il y en ait d'autres. Alors aujourd'hui, j'étais accompagné à la technique, à la réalisation de Simon Deborne, à la régie générale Laurent Cuzin. Cette émission sera rediffusée jeudi prochain, 18h à 19h, puis mardi de 13h à 14h. Vous pouvez également vous rendre sur le site de Résonance Contemporaine, www.resonancecontemporaine.org, pour écouter Radio B en direct ou en différé, podcasté et connaître la grille des programmes. Vous pouvez vous rendre sur www.radio-b.fr. Nous vous remercions de nous avoir accueillis chez vous. Merci pour votre confiance et votre votre curiosité. N'hésitez pas à vous rendre en Suisse, il y a de belles choses à découvrir, et que la journée vous soit belle et douce.